Bonjour à ceux que j'ai pas vus.
Comme Daniel l'a dit, nous sommes dans la période de l'Avent. Et je vous propose un texte, justement, avant que Jésus ne naisse, dans l'évangile de Luc. Luc, le premier verset, le premier chapitre, et au verset 11. Donc c'est un ange qui vient dire à Zacharie ce qui va se passer. Luc 1, 11. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de ses fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux. » Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Il y a un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 32. Matthieu 24, 32 à 35. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jusqu'ici, la lecture. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci parce que tu nous as envoyé Jésus. Merci, tout simplement. Ce mot est tellement petit par rapport à ce que toi tu as fait. Mais nous voulons encore t'écouter, écouter ta parole, écouter ton message, écouter ce que tu as à nous dire. Merci parce que tu vas encore nous renouveler, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Avec l'actualité qui se passe dans le monde, on est quand même parfois tellement accaparé par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on regarde à la télé, qu'on oublie parfois, presque, qu'on est en période de l'Avent. Heureusement qu'il y a quand même encore des décorations un peu partout. Et on est dans la période de Noël. Donc, aussi, cette tradition a appelé période de l'Avent. Il ne faut pas chercher dans la Bible, on ne trouve pas. Mais c'est une bonne tradition pour moi, personnellement. Et le terme français « avant » vient du mot latin « adventus » qui signifie « la venue ». Et l'avant, principalement, concerne la première venue de Jésus-Christ, évidemment, il y a 2000 ans. Et dans plusieurs églises, bon, comme vous voyez, dans les églises protestantes, cette période est marquée parfois par un allumage de quatre bougies, pour les quatre dimanches de l'Avent. D'autres proposent des lectures quotidiennes, de méditations ou journalières, ou des calendriers de l'Avent. Je disais la semaine dernière à Pâturage, les calendriers de l'Avent, il y en a de toutes les sortes. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Même, il y a de nouveaux jeux maintenant, ils ouvrent des cases. Hein. Le 13, hein, vous gagnez 13 000 euros. Ouais. Et, ben oui, calendrier de l'Avent. Rien à voir avec Noël, évidemment. Mais voilà, tout est là. Pour ma part, moi, je pense que cette période devrait être un ressourcement. J'ai marqué un reboostage. J'aime bien ce genre de mot, se rebooster. Rebooster, c'est sur une batterie, on la secoue, quoi. Allez, on se rebooste pour rebooster notre foi et notre connaissance de Dieu. Quand même pas oublier que Noël est quand même l'anniversaire de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Le Fils de Dieu doit être le centre de cette période, de ce Noël. Mais que s'est-il passé avant l'avant zéro? On peut se poser, parce que maintenant c'est l'avant maintenant, mais avant l'an zéro. L'an zéro qui a commencé par Jésus-Christ, enfin, hein, si on trouve les calculs, on peut toujours discuter, il y a 4 ans avant, 4 ans après, bref, l'an zéro a commencé par Jésus-Christ. À cette époque, l'Empire romain a pris possession de pratiquement tout le pays qui bordait la Méditerranée, dont le, hélas aussi le pays promis à Abraham, la Judée, la Samarie, la Galilée, entre autres, et les Juifs étaient sous le joug des Romains, le joug de l'envahisseur. Bien, des guerres ont essayé de libérer, ont essayé de tenter de mettre les Romains dehors, mais ils restent maîtres du territoire. Vous entendez parfois des révolutions juives de Judas Maccabée, tiens, c'est des livres apocryphes, Maccabée, non, c'est des livres historiques qui, et les Maccabées, ont réellement existé, et c'est pas des Maccabées comme nous, on pense. Hein, c'est un nom. C'est comme si Jean-Luc Caron, ben voilà, il sortait Judas Maccabée. C'est comme. Mais voilà tout ce qui s'est passé, et à certains moments, ben, il y avait des guerres, et certains Israélites ont quand même eu dans la tête que un Messie allait arriver, annoncé par les prophètes, qui n'allait pas tarder, et qui allait tout chambouler, et qui allait mettre dehors les Romains, dont aussi un certain Judas qui pensait que ça allait passer autrement. À notre époque, actuellement, notre envahisseur, lui, il est connu. Or, notre Satan, il a eu bien des essais pour l'éradiquer aussi, mais pour l'instant, il faut avouer qu'il est là. Et que le mal qui est dans le monde est quand même au top. Et pour ce qui est de l'éradiquer, ça n'a pas été facile. On a bien essayé de faire des comités, des gens qui se rassemblent parfois pour essayer d'avoir quelque chose de mieux sur la terre, d'avoir la paix. Mais jusque maintenant, comme dirait un autre, il n'y a pas de fumée blanche et le monde dégringole, se désagrège. Si nous brossons une esquisse un peu de ces 50 dernières années, moi je trouve que c'est décevant. Il ne faut pas aller loin. 50 ans, la déforestation, la disparition de certains animaux sauvages, le changement de climat, l'augmentation de la population humaine passant de 1 milliard à 7 milliards en presque 100 ans. Ça me fait penser qu'on n'a pas de retour en arrière. On est mal là. On est peut-être certainement dans un tournant de l'histoire de la terre et des cieux. Alors, nous avons lu dans le texte de Matthieu, qui est repris dans l'évangile de Luc, nous connaissons la fin que Dieu prévoit. Nous allons inexorablement vers le retour de Jésus-Christ. Enfin. Oui, le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance. Nous allons vers le retour de Jésus-Christ. Alors déjà, à l'époque, Jésus déjà prévoyait que ce serait rapide. Une génération. Cette génération ne passera pas que cela n'arrive. Il y a quelques générations quand même. Est-ce qu'il se serait trompé? Ah, il y a beaucoup d'exégètes, beaucoup de techniciens de la Bible, des étudiants de la Bible se sont cassés les dents sur ce verset. Pour essayer de donner une explication plausible, parce que la génération est passée. Personnellement, moi je pense que les derniers temps ont commencé à la croix. On ne peut pas être obligé d'être d'accord avec moi. Pour moi, le temps de la fin a commencé à la croix et que les signes précurseurs de la venue de Jésus, ce sont depuis des générations, depuis cela, sont visibles et vont en augmentant. Ils vont de plus en plus, parce que Dieu patiente. Dieu patiente. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais dans cette patience, il crie de plus en plus fort. Alors, oui, on a des médias, on a tout, mais c'est quand même de plus en plus fort. L'échelle de Richter, je crois qu'elle a commencé à 4, et on est à 8. L'échelle de Richter, pour info, c'est celle qui mesure les séismes. Et c'est une échelle ouverte. On augmente de plus en plus. Dieu, pour moi, crie de plus en plus fort. Il est temps. Et en abordant le sujet de la deuxième venue de Jésus, je veux mettre en parallèle, évidemment, comme vous l'avez compris, l'avant Noël et l'avant, surtout, de Jésus-Christ. Et pour moi, notre préparation spirituelle doit être la même pour les deux. Mais voyons ce que on peut en tirer comme enseignement de l'avant, de la première venue. Les événements qui nous sont rapportés dans les évangiles précédant la naissance de Jésus sont annoncés et les principaux acteurs des scènes sont prévenus. C'est Zacharie et Élisabeth qui vont avoir un enfant et qu'il faudra nommer Jean. Et sa mission est de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Ça, c'est sa fonction. Jean arrive, il doit préparer le cœur des gens. Cette mission, c'est de ramener les fils d'Israël par deux promesses. Dans Luc 1, 17, qu'on a lu, ramener les cœurs des pères vers les enfants et ramener les rebelles, j'ai mis entre parenthèses, les désobéissants, à la sagesse des justes. Premièrement, ramener les cœurs des pères vers les enfants. J'ai trouvé cette promesse, rappelle un peu la prophétie de Malachie, Malachie 4, 5, 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Jean-Baptiste accomplira sa mission avec l'esprit et la puissance d'Élie, bien qu'il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait que baptiser. Il fera des disciples, les baptisera du baptême de repentance, et ouvrira la porte, et ouvrira le chemin, fera la trace du chemin pour le ministère de Jésus. Nous pouvons constater que la réconciliation des familles, pour nous, est d'abord, commence par là. Et c'est souvent l'un des premiers effets du retour à un Seigneur, nos familles. J'ai souvent dit que la pire des choses, c'est d'être tout seul, converti dans sa famille. Parce que les autres n'écoutent pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es là? Pourquoi? Et alors on se bat, on essaie, on prie. Puis des années passent. Que fait Dieu? Il travaille. Et parfois il a beaucoup de travail. Et parfois le temps. Mais c'est le but, le retour à Dieu dans les familles. Deuxièmement, ramener les rebelles désobéissants à la sagesse des justes. Il est difficile de désolidariser les deux points, père et fils et désobéissants et sages. Vous savez, les enfants. Et la mission de Jean se situe dans le but de ramener plusieurs fils d'Israël pour en faire un peuple bien disposé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Et il est envoyé comme tout prophète qui connaît la Torah, qui connaît la loi de Dieu, qui est souvent au courant des prophéties et qui devrait attendre la venue du Messie. Il doit prévenir, repentez-vous, le temps est proche. Il a été envoyé, pas pour convertir les Romains, il a été envoyé pour le peuple de Dieu. Une sorte de remise en question, ramener les justes, ramener à la sagesse. Remise en question de la génération présente, pour qu'elle prenne conscience qu'un événement extraordinaire va arriver. Jean, tout simplement, il porte rien pour attirer leur regard, une peau de bête. Il convertissait, il baptisait, pour préparer les cœurs à la venue de Jésus. Et il est étonnant que dans la liste des signes de la fin des temps, il nous est cité aussi la rébellion des enfants. Et je vous cite 2 Timothée 3, 1, 5. Sachant que dans les derniers jours, moi j'ai parlé des derniers temps, pour moi les derniers temps, ils ont commencé à la croix. Dans les derniers jours, le temps passé, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Noël, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans la piété, la magie de Noël? Je disais hier, la magie de Noël, deux mots totalement opposés. Magie, magicien. Et Noël, c'est pas de la magie. Noël n'est pas de la magie, c'est de la réalité. Alors pour revenir à l'avant, naissance de Jésus, nous retrouvons avec les futures mamans. Élisabeth, pour laquelle nous savons qu'elle est âgée et stérile, et Marie, qui est jeune et vierge, impossible d'avoir des enfants, ni l'une ni l'autre, pratiquement enceinte, pourtant en même temps, elles ont bénéficié toutes deux d'un miracle de Dieu. Et notre Père, en cette période, s'occupe de deux humbles inconnus, comme disait Daniel, les bergers, les petits bergers. Ici, deux humbles inconnus, qui vont être les actrices de la plus grande des choses remarquables de l'humanité. Ça va changer la face du monde. Les trois décennies qui vont suivre vont être les plus importantes pour tous les temps. Et en utilisant deux femmes, Dieu montre qu'il aime les humbles qui sont prêts à répondre présents. Si les bergers avaient dit, bon, on n'y va pas, les humbles. Dieu cherche des humbles pour faire la mission et affronter parfois des difficultés. Difficultés, évidemment, pour une femme âgée, de donner des raisons d'être enceinte, et d'une vierge, de donner les mêmes raisons d'être enceinte. Imaginez. Dieu est surprenant. Et Marie et Élisabeth sont des super-héroïnes du récit de l'Évangile, et qui, je vous le rappelle, veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce qui nous frappe dans le récit de l'attente de la naissance de Jésus, c'est l'humilité de ces deux femmes. Qu'elles n'ont rien en commun, sauf qu'elles sont cousines. Élisabeth dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Comment est-ce possible? Elle reconnaît. Mais comment est-ce possible que tu viennes près de moi, moi qui ne suis rien? Et Marie, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît sa bassesse. Elle, pour elle, elle n'est rien, une femme, une simple femme, une simple fille. Parce qu'en Israël, les filles, ce n'est pas le top. Hein. Ces deux femmes reconnaissent vraiment leur Dieu. Seuls ceux qui, comme Élisabeth et Marie, reconnaissent leur bassesse et sont submergés de joie à l'idée que ce Dieu puisse poser les yeux sur eux, peuvent exalter le Seigneur en magnificence. Être humble devant Dieu, devant ce Dieu qui vient vers nous. Incroyable. Alors la louange de Marie, évidemment, sera de le rappeler le Magnificat. Alors pour terminer, que cette période de l'Avent soit pour nous un temps de remise en question, de ressourcement spirituel, de reboostage, comme j'aime bien le dire. Et pour laisser une conclusion qui n'est pas la mienne, je voudrais vous lire une partie d'un livre qui s'appelle « La bonne nouvelle d'une grande joie » qui a été écrit par John Piper. Le titre « Préparer la voie ». Voilà ce qu'il dit. « Ce que Jean-Baptiste a fait pour Israël, l'Avent peut le faire pour nous. Ne laissez pas Noël vous surprendre sans préparation. Je veux dire spirituellement non préparé. Sa joie et son impact seront tellement plus grands si vous êtes prêts pour que vous puissiez vous préparer. Premièrement, méditez sur le fait que nous avons besoin d'un sauveur. Noël est une condamnation avant qu'il ne devienne un délice. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si tu as besoin de sauveur, tu n'as pas besoin de Noël. Noël n'aura pas l'effet escompté tant que nous ne ressentirons pas désespérément
le besoin d'un sauveur. Je pense que le monde actuellement n'a pas besoin d'un sauveur. Vu que son Noël à lui, ben c'est cadeau, c'est tout, c'est l'artifice, c'est la joie, c'est manger.
Noël n'aura pas d'effet escompté tant que nous ne ressentirons pas désespérément le besoin d'un sauveur. Deuxièmement, entreprenez un auto-examen sobre.
C'est là que, avec Daniel, on se rejoint, mais on ne sait pas parler. Voilà ce qu'il nous a dit. L'Avent est à Noël ce que le Carême est à Pâques.
Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23. C'est le chant qu'on a chanté. Sonde-moi.
Quand je pense à une sonde, quand vous faites cuire un poulet ou quoi que ce soit, il existe des thermomètres. Et la sonde, ça pique.
J'imagine Dieu qui arrive et qui vient me sonder mon cœur, qui vient, ça fait peut-être mal, mais il fait ça, il sonde mon cœur.
Que chaque cœur lui prépare de la place en faisant le ménage intérieur.
Troisièmement, développer une anticipation, une attente et un enthousiasme centré sur Dieu dans votre maison, surtout pour les enfants. Si vous êtes emballé par Christ, ils le seront aussi. Si vous ne pouvez rendre Noël passionnant qu'avec des choses matérielles, comment les enfants auront-ils soif de Dieu ? Faites preuve d'imagination pour rendre visible aux enfants l'émerveillement de l'arrivée du roi. Si les enfants n'ont des cadeaux, si on ne parle jamais de Jésus, ils n'auront qu'un Noël de cadeaux.
Quatrièmement, demeurez assidûment dans les Écritures et mémorisez les passages les plus importants.
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? Jérémie 23, 29.
Rassemblez-vous autour de ce feu de cette saison de l'Avent. Il est chaud. Il scintille des couleurs de la grâce. Il guérit de mille blessures. Il est la lumière qui luit dans les sombres nuits. Fin de citation de ce livre qui, pour moi, m'a touché.
Alors que cette préparation de l'Avent de Noël est aussi valable pour l'avant-retour de Jésus. Qu'en cette période bouleversée, nous puissions montrer au monde sans foi ni loi que Dieu jette encore ses yeux sur la bassesse de la mère de Jésus, sur la bassesse de son Église peut-être. Dieu nous regarde et il peut encore nous étonner.
Alors ayons l'humilité de reconnaître que certainement on ne connaît pas à fond ce Dieu si merveilleux.
Qu'à Dieu revienne toute la gloire.